Tenez-vous dans sa présence. Gloire à Jésus. Je suis heureuse que vous soyez là cet après-midi, que vous soyez revenus, amen, pour recevoir la parole de Dieu. Et donc, j'aimerais continuer d'enseigner ce matin, continuer d'enseigner cet après-midi, sur ce que j'ai commencé ce matin, pour aller au bout des choses. Il faut aller au bout des choses. Il faut tout couvrir. Amen. Pas faire les choses à moitié. Jamais bon de faire les choses à moitié. C'est un sujet important. C'est un sujet du Saint-Esprit. Il est bon pour vous. Il est important pour vous. Peut-être vous dites, mais aujourd'hui, je ne vois pas en quoi j'en ai besoin dans ma vie. Alléluia. Très bien. C'est une information importante que vous recevez dans votre cœur. Vous en aurez besoin un jour ou l'autre. Croyez-moi. Ou peut-être aujourd'hui, vous vous posez déjà des questions et vous dites, mon Dieu, qu'est-ce que je fais dans ces relations? Qu'est-ce que je fais avec ces associations? Qu'est-ce qui se passe? Je ne connais pas ma droite de ma gauche. C'est déjà qu'il y a un problème. Et vous devez vraiment méditer sur ce message. Ce matin, nous avons étudié les associations et les alliances, principalement les associations. Mais cet après-midi, nous allons étudier les liens de l'âme. Dis à ton voisin les liens de l'âme. Donc on va vraiment couvrir et fermer la boucle. Oh, les liens de l'âme, c'est très sérieux. Je crois ce soir que nous allons briser toutes les chaînes dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous allons briser les chaînes et le Saint-Esprit va briser les chaînes. Parce qu'au-delà de ce que moi je dis et j'enseigne, c'est le Saint-Esprit qui vous parle. Et je prie dans le nom de Jésus. Je prie pour ton peuple et tes enfants, Père, et pour ce message. Ce n'est pas un message de plus, Seigneur. C'est une clé. C'est un message important. Il y a peut-être certains de tes enfants qui ont besoin d'être libres, qui ont besoin de se libérer de jougs, de pièges dans lesquels ils sont. Je prie au nom de Jésus que tu ouvres leurs yeux, que tu les éclaires, que tu parles à leur cœur. Au nom de Jésus. Afin qu'ils puissent marcher dans tes voies, Seigneur, vraiment en étant totalement libres de tous les pièges et de tous les liens de l'ennemi, dans le nom de Jésus. Amen et amen. Alléluia. Vous savez, Dieu veut nous libérer de tout lien. Les liens ne nous tuent pas. Les liens ne vous tuent pas, mais ils vous empêchent d'avancer. Quand vous êtes quelqu'un de lié, quand vous avez des liens dans votre vie, qu'est-ce que c'est dur d'avancer, mais qu'est-ce que c'est bien d'être libre? Parfois, c'est pas facile d'être libre, parce que ça demande de prendre des décisions. Ça demande de changer certaines choses. Bien sûr, sous la conduite du Saint-Esprit. Mais qu'est-ce que c'est bon d'être libre? Lorsque Lazare était mort, Jésus a dit, Lazare, sors! Et Lazare est sorti du tombeau. Mais lorsque Lazare est sorti du tombeau, il était plein de bandelettes. Il était lié, il ne pouvait pas bouger. Qu'est-ce que Jésus a dit? Déliez-le et laissez-le aller. Ses liens avaient besoin d'être rompus, ses liens avaient besoin d'être brisés. Et après, il était libre pour avancer dans le chemin du Seigneur. Amen. Je crois que ce message, pour certains d'entre vous, va vous libérer. Vous avez besoin d'être libérés. Certains d'entre vous, vous êtes dans la confusion depuis trop longtemps. Mais la confusion va être brisée sur votre vie dans le nom de Jésus. Certains d'entre vous, vous êtes dans des relations et des associations qui sont mauvaises, néfastes sur votre vie, sur lesquelles il n'y a pas d'avenir. Mais vous allez être libérés dans le nom de Jésus. Alléluia. Celui que le Fils rend libre est réellement libre. Tout cela, bien sûr, se fait par la conduite du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Donc, c'est important de comprendre ce que sont les liens de l'âme. Il y a les associations, mais il y a plus fort encore, ce sont les liens de l'âme, lorsque le cœur est engagé. C'est pourquoi, avant de vous engager avec quelqu'un, n'est-ce pas, vous devez chercher dans votre cœur, dans votre esprit. Amen. Bien sûr que les sentiments viennent après et que les sentiments sont extrêmement importants. Extrêmement important. On ne se marie pas sans sentiments. Vous comprenez? Nous ne sommes pas des anges dans le ciel. Nous sommes des êtres humains. Mais dans notre esprit, avant de nous engager, et surtout de nous engager dans des relations affectives et émotionnelles, nous avons besoin de connaître le plan de Dieu et d'être sûrs de nous. Amen. C'est pourquoi dans l'Ecclésiaste, il est écrit, retenez l'amour, attendez l'amour. N'est-ce pas? Ne partez pas dans des relations d'amour. N'est-ce pas? Attendez, retenez. Vous comprenez? Retenez votre cœur et votre corps. Votre cœur et votre corps. Parce que quand vous ne retenez pas votre cœur et votre corps, après, vous n'avez plus de noix de coco. Il n'y a plus rien dans la noix de coco. Sauf que la vie, elle est longue. Maintenant, je ne parle pas que du mariage, mais je parle de toute chose. Comprenez que je parle de toute forme de relation. Je parle du mariage, bien sûr, mais je parle aussi des amitiés profondes. Je parle des fréquentations, je parle des relations de travail, des associations, toute espèce de choses. Dans la vie, nous rencontrons beaucoup de gens. Hein? Mais nous ne nous associons pas avec beaucoup de gens. Il y a certaines personnes avec lesquelles nous devenons liés. Nous développons des liens, des relations, nous tissons des relations. Et donc, cela peut être des amis, cela peut être un fiancé, une relation amoureuse, ou une personne qui a de l'influence sur nous. Cependant, certains de ces liens sont pieux, sont bons. Ils viennent de Dieu. Et vous le savez, parce que au travers de ces liens, vous avancez. Vous allez dans le bon sens, pas dans le mauvais sens. Vous vous rapprochez de Dieu. Ces liens, ces relations fortifient votre engagement. Vous grandissez dans la foi. Ces relations vous motivent, elles sont un moteur pour vous, elles vous encouragent vers les bonnes choses. Ce sont de bons liens. Ce sont des bonnes relations. Dieu nous envoie aussi des bonnes relations. Et je veux qu'à l'église, vous ayez de bonnes relations. La Bible dit, encourageons-nous les uns les autres. Provoquons-nous les uns les autres à faire de bonnes œuvres. Alléluia. Donc il y a de bonnes relations. Mais il y a aussi des liens que nous pouvons avoir établis depuis longtemps avec des personnes, ou peut-être même juste maintenant. Mais ce sont des liens qui sont mauvais, dangereux, néfastes pour notre vie. Et nous le voyons parce que ce sont des choses qui produisent le fait que nous sommes retenus en arrière. Nous avons du mal à avancer. Il n'y a pas d'avenir. C'est comme dans une impasse. Il n'y a pas de progression. Il n'y a pas d'amélioration. C'est votre temps qui se perd. C'est votre vie qui passe. Et parfois même, ces liens vous séparent de Dieu. Vous sépare de la sainteté, hein. Vous sépare de votre consécration, de votre engagement. Par ces simples signaux. Parce que la Bible dit que l'on reconnaît un arbre à ses fruits. Hein. Vous savez quelles sont les bonnes relations de votre vie, hein. Quelles sont les mauvaises relations dans votre vie. Hein. Alléluia. Amen. Job était un homme de Dieu. La Bible parle de lui comme un homme intègre. Et droit, qui avait vraiment un cœur pour Dieu. Seulement Job a reçu une terrible épreuve. Et vous voyez que quand bien même il était intègre, juste, et qu'il faisait le bien, il n'a pas été immunisé aux épreuves. La Bible dit qu'il pleut sur le juste comme sur le méchant, sur le bon comme sur le méchant. La vie est pleine d'épreuves, la vie est pleine de circonstances. Et Job n'a pas été épargné. Pourtant, il était droit, il était bon, mais il est passé par une épreuve très difficile. Oh, c'était difficile. Et en un jour, il a tout perdu. Toutes les choses qu'il aimait, qui étaient précieuses dans sa vie, il les a perdues. Et c'était vraiment éprouvant, et même sa santé. Toutes choses. Seulement, il n'a pas perdu sa femme. Il a tout perdu, mais pas sa femme. Et sa femme, la seule chose qu'elle a été capable de lui dire, « Pourquoi ne maudis-tu pas Dieu et meurs ?» Oh my God ! L'ennemi avait tout enlevé, ce qui était de bon, et il lui avait juste gardé la personne qu'allait lui susurrer quelque chose de démoniaque à l'oreille. Et donc, elle lui dit, pourquoi ne maudis-tu pas Dieu et meurs? En d'autres termes, elle lui dit, ta situation ne va pas s'arranger. Tu vois, ça ne peut juste pas être pire que c'est maintenant. T'as perdu ta famille, t'as perdu tes richesses, t'as perdu tes serviteurs, maintenant t'as perdu ta santé. Rien ne peut s'améliorer dans ta vie. Meurs donc. Et non seulement meurs, mais va en enfer. Maudit Dieu. Où voulez-vous? Vous maudissez Dieu. Où est-ce que vous croyez que vous allez passer votre éternité? Maudit Dieu. Elle lui dit juste, meurs et va en enfer. My God. Ça, c'est une situation sérieuse. Et en plus de ça, Job, il avait 3 amis. Et les 3 amis qu'il avait, oh my God, n'ont cessé de l'acculer, de l'accuser, de venir avec des raisonnements invraisemblables où dans rien il n'y avait l'Esprit de Dieu. Mais Job, il a réussi à garder son intégrité. Il est resté ferme dans les voies de Dieu et il ne s'est pas fait influencer ni par sa femme, ni par ses amis, mais il a gardé la voix de Dieu. Et la Bible dit qu'à la fin, et je pense que le périple de Job a duré 9 mois, à la fin de ces 9 mois, il a récupéré le double. Alléluia! C'est ce qui se passe quand on se tient dans l'intégrité. Lorsqu'on marche et qu'on reste dans l'intégrité, quand bien même on passe par des épreuves, peut-être vous passez par des épreuves et puis des gens qui vous disent « Oh mais regarde, regarde le Dieu que tu sers, regarde ce que tu fais, regarde ce que tu donnes à l'église, regarde ce qui se passe dans ta vie. » Et des gens qui vous parlent comme ça, qui essaient d'ébranler votre foi, votre intégrité, c'est difficile. Quand les gens font ça autour de vous, vous savez que vous n'avez pas les bonnes personnes autour de vous. Vous savez que vous n'avez pas les personnes à écouter, parce que si vous écoutez ces personnes, vous êtes fini. Dieu va vous aider au travers de vos épreuves. Dieu va voir votre intégrité et il va vous récompenser. Au bout du compte, Dieu va vous donner le double. Mon mari a été éprouvé de nombreuses épreuves. Il a connu beaucoup d'injustices, beaucoup de moments difficiles. Mais je vais vous dire, il a toujours gardé son intégrité. Et au bout du compte, il a toujours reçu le double. Je ne vous entends pas. Il a toujours reçu tellement plus que ce qu'il a perdu dans tous les domaines de sa vie et bien des fois. Alléluia. Dieu est un Dieu bon et fidèle. Restez accrochés à votre intégrité. Faites attention à qui parle dans votre vie. Je vais vous donner plusieurs exemples. La Bible parle de Jonathan. Tout le monde connaît Jonathan. Mais Jonathan, vraiment, a été une victime. C'est une triste histoire. Il a été une victime, et je dirais, Jonathan, il a été victime de lui-même. Il a été victime des liens de l'âme dans sa vie. Jonathan était le fils de Saül, du roi Saül. Et Jonathan, il aimait David. Il avait un cœur pour David. Il avait vu dans la vie de ce jeune David, il avait vu le plan de Dieu. Il avait vu la main de Dieu. Il avait vu la grâce de Dieu. Mais pas seulement lui, tout le monde l'avait vu. C'était évident. David portait la gloire de Dieu. Il était plein de zèle pour Dieu. Il était juste différent de tout le monde. C'était un homme exceptionnel. Et nous avons besoin de ressembler à David. Dis à ton voisin, ressemble à David. Mais dites-le avec conviction. Hein. Dis à ton voisin, je suis un David. Ne sais-tu pas que je suis un David? J'ai prêché un message. Soyez un David. Nous avons besoin d'être David. S'il y a quelqu'un, si vous voulez prendre vraiment conseil et à qui vous voulez ressembler, ressemblez aux bonnes personnes. N'essayez pas de ressembler aux stars de ce monde qui ont plein de belles choses à l'extérieur mais rien de bon à l'intérieur. Je me demande toujours, mais qu'est-ce que font les riches avec leur grande richesse? Ils ont de l'argent à ne pas savoir quoi en faire. Ils n'ont même pas l'idée, ça ne leur vient même pas à la pensée, l'idée de créer un orphelinat, l'idée de soutenir. Ils sont rares. De toutes les stars que nous voyons, de tous les people, on va dire, que nous voyons qui ont tellement d'argent et tellement de richesses et tellement de vie facile et autres, ça ne leur vient même pas à l'idée. Hein. Ils ont plein de belles choses à l'extérieur, mais rien de bon à l'intérieur. Si vous voulez ressembler à quelqu'un de bien, ressemblez à David. Quel homme ce David! Il avait un tel cœur pour Dieu. Je vais vous dire un truc. Quand vous avez un cœur pour Dieu, que vous êtes motivé pour Dieu, que votre cœur, il est entier pour Dieu, vous faites des erreurs, parfois vous... David, il a fait des erreurs, mais Dieu ne lui n'a pas tenu rigueur parce que Dieu voyait son cœur. Maintenant, il n'était pas obligé de faire des erreurs parce que les erreurs ont enquiquiné sa vie. Les erreurs ont amené des troubles et des problèmes dans sa vie que Dieu... Non, c'était pas Dieu qui avait amené ces choses, il les avait juste amenées sur lui-même. Il n'était pas obligé de passer par ce chemin, il n'était pas obligé d'avoir cette malédiction qui est venue sur sa génération, sur ses enfants. Mais néanmoins, Dieu ne lui en a pas tenu rigueur. Dieu l'aimait, mon serviteur David, à cause de mon serviteur David. Je ne ferai pas cela à cause de mon serviteur David. Je ferai cela à cause de mon serviteur David. Bien après que David soit parti, qu'il soit mort, Dieu parlait de David. Dans toute la Bible, même jusqu'aux évangiles, il est parlé de David à cause de mon serviteur David. Dieu avait un tel amour pour David, parce que David avait un tel amour pour Dieu. L'amour de David pour Dieu était extraordinaire. Nous avons besoin de ressembler à David. Jonathan connaissait David et Jonathan aimait David. Il appréciait ce David, il voyait les qualités de cœur qu'il avait pour Dieu. Et il savait que la main de Dieu était sur lui. Il savait qu'il était le futur roi d'Israël. Mais Jonathan, quand bien même il a protégé David, quand bien même il l'a aidé à s'échapper, à fuir de la main meurtrière de Saül, Jonathan est resté attaché à son père. Rétrograde, rempli de démons, désobéissant et rebelle à Dieu. Jonathan est resté avec son père alors qu'il savait qui était David. La réalité, c'est que sa place était avec David, mais n'a pas réussi à trancher ce lien de l'âme et il est resté associé à la mauvaise personne. Et lorsque Dieu a voulu juger Saül, qu'il a dit « Maintenant, c'est fini pour toi », David n'a jamais voulu mettre la main sur Saül. Il a dit « C'est pas à moi, c'est pas à moi de juger, c'est pas à moi de mettre la main sur le oint de l'Éternel ». Et David avait raison. C'était pas à lui de toucher, quand bien même il aurait pu. Il ne l'a pas fait. Amen. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un moment où Dieu a dit, maintenant ça suffit, Saül. C'est fini pour toi et je mets terme à ta vie. Et lorsque Dieu a fait cela, c'était sur le champ de bataille. Et Jonathan était avec son père et les deux sont morts. Alors que Jonathan était un homme qui était bon, mais associé à la mauvaise personne. Un lien de l'âme qu'il n'a jamais su briser tout au long de sa vie, qui a amené la tragédie dans sa propre vie. C'est terrible. Est-ce que vous m'entendez ce soir? Est-ce que vous comprenez les liens de l'âme? Les liens de l'âme, c'est dangereux. Abraham, Dieu lui dit en Genèse 12, Abraham, sors de ta patrie, sors de ta nation. Sors et quitte ton père et la famille de ton père. Et va dans la direction que je te montrerai. Qu'est-ce que Abraham fait? Il part et il prend Lot avec lui. Dieu lui a jamais dit de prendre Lot avec lui. Mais il avait un lien de l'âme. Il était l'oncle, le tonton, selon la tradition, n'est-ce pas? Vous connaissez les tontons? Hein? Et selon la tradition, et il a pris Lot avec lui. Lot a été une source de problèmes et de mal de tête pour Abraham. Premièrement, les bergers de Lot et les bergers d'Abraham se disputaient. Donc Abraham a dit, nous devons nous séparer. Il a compris après beaucoup de disputes. Et après, il montre à Lot, il dit, choisis où tu veux aller. Lot choisit Sodome. Et il part à Sodome. Et il vit comme Sodome. Oh my God! Qu'est-ce que Lot faisait à Sodome? Et après, Dieu veut juger Sodome. Et là, Abraham se met à intercéder et dit, hey, s'il y avait 30 justes, est-ce que tu détruirais toute la ville? Tu n'épargnerais donc pas 30 justes? Et Dieu dit, oh non, j'épargnerai 30 justes. Oh, s'il y en avait 25! Il est en train de plaider pour Lot et sa famille. Dieu savait, hein, et il dit, ok, s'il y en avait 25, je ne détruirai pas ces 25. Oh, si on avait 20, oh, si on avait même 10, et Dieu dit, je ne détruirai pas. Oh, dit, alléluia. Et donc, c'est comme ça que Lot a été sauvé, Lot et sa famille. Enfin, une partie. Parce que sa femme est restée, elle est restée une statue de sel, vous le savez. Vous comprenez, hein? Abraham avait un lien de l'âme avec Lot, il avait un lien, il est resté attaché à ce Lot, Dieu lui demandait une chose, mais lui, elle en a fait une autre. Et ça a été une complication dans sa vie. Bien sûr, une des situations, une des histoires les plus tragiques, c'est celle de Samson. Et j'en ai commencé à en parler un petit peu ce matin. C'est une des histoires les plus tragiques et les plus tristes qui soient. Samson. Est-ce que vous pensez à Samson? Est-ce que vous réalisez qui était Samson? Cet homme extraordinairement puissant. D'abord, Samson n'est pas juste né comme vous et moi. Samson, un ange, pour vous dire, qui était Samson? Un ange est venu vers sa mère, qui était âgée et stérile, et qui lui a dit qu'elle serait enceinte. Et il a dit à sa mère qu'elle ne devait rien boire d'impur, rien toucher d'impur, parce qu'elle portait un enfant qui allait être un libérateur d'Israël. Alléluia. Un ange est venu. Et l'ange lui a dit que cet enfant devait être un Naziréen. Alors si vous connaissez le vœu de Naziréen, il y a des règles. Vous ne pouvez pas tout faire. Mais nous sommes aussi des Naziréens. Nous ne pouvons pas tout faire. Dieu vous aime. Sa grâce est merveilleuse. Mais je ne peux pas tout faire. Je ne peux pas tout regarder. Je ne peux pas fréquenter n'importe qui. Tout ne m'est pas autorisé dans ma vie. Alléluia. Surtout si je dois porter l'onction. Surtout si j'ai un appel et une destinée sur ma vie. Donc Dieu avait dit précisément qu'il devait porter le Naziréa. Et ce vœu de Naziréa, c'était un certain nombre de règles. Et notamment, le fait de ne jamais toucher du vin. Et pas seulement du vin. Jamais toucher de raisin ni de vigne. Vous comprenez ça? Et il y avait aussi une autre chose dans le vœu de Naziréa. Pas le droit de toucher quoi que ce soit qui soit impur. Or, un corps mort est considéré par la loi juive et mosaïque comme quelque chose d'impur. Et il n'avait pas le droit non plus de se couper les cheveux. Hein? Mais Samson, il a joué. Il a joué. Et dans sa vie, il a laissé vraiment des portes ouvertes à la désobéissance. Vous savez, avec les lois de Dieu, il faut être vraiment très, très sérieux sur les lois de Dieu. Il ne faut pas jouer avec ces choses. Il a joué avec la désobéissance. Samson, il s'est accordé des libertés. Et en fait, quand on voit et quand on lit dans Juge son histoire, on voit que Samson a ouvert des portes extraordinaires à la désobéissance depuis le début, depuis le départ. C'est sérieux. Il avait peut-être le goût des choses interdites. En tout cas, il n'a pas discipliné sa vie. On le voit dès le départ de son histoire. Il descend et il arrive dans une vigne. Et là, il déchire un lion. Qu'est-ce que Samson avait à faire dans une vigne? Alors que le vœu de Naziréa fait que vous ne devez pas vous approcher ni du vin, ni du raisin, ni d'une vigne. Même pas toucher. Or Samson, dès le départ, on le retrouve dans une vigne. À déchirer un lion. Et après, on le voit qu'il mange du miel. Ce miel, il l'a pris d'où? Du corps mort du lion. Est-ce que vous voyez la désobéissance dans sa vie? Il n'avait pas le droit de toucher à un corps mort. Et il est en train de manger de l'essaim de miel qui se trouve dans le corps mort du lion. Tout ça, c'était des brèches ouvertes. Et le peuple d'Israël, c'était clair qu'il n'avait pas le droit d'aller vers des femmes païennes. Et on le voit qui va vers telle femme païenne, puis telle femme païenne, et Samson, qui était puissant, qui était plus fort que n'importe qui. Jamais n'a été fort un homme comme Samson. Il a ouvert tellement de portes qu'un jour, l'ennemi lui a envoyé vraiment un agent secret spécial. Et là, il a été terrassé. Il lui a envoyé Delila. Qu'est-ce qu'un homme de Dieu faisait sur les genoux de cette femme qui n'était pas une femme juive, qui était une païenne et une prostituée? Moi, parfois, je me demande si les gens réalisent qui ils sont. Le diable sait qui vous êtes, mais est-ce que vous savez qui vous êtes? Lorsque certains surfent sur le net et s'attardent sur certaines choses, ou s'attardent dans certains films, ou regardent ou touchent à certaines choses, est-ce que vous oubliez qui vous êtes? Quels sont les vœux dans votre vie? Il y a un vœu de Naziréa sur votre vie. Vous ne pouvez pas avoir la puissance de Dieu et l'onction et l'autorité si vous ouvrez des portes à la désobéissance. Alléluia. Merci. Oh, merci beaucoup. Est-ce que je peux avoir un amen? Yes. Amen. Le diable lui a juste envoyé, taillé à sa mesure, selon son goût, exactement comme il aimait, une femme qui allait le séduire et le tromper. Vous savez ce que ça veut dire, Delila? Vous savez ce que ça veut dire, Delila? Moi, je suis allée chercher. Delila, ça veut dire coquette. Coquette. Jolie, coquette. Delila, lorsqu'il l'a vue, il a fait... Ses yeux, ils ont fait... Elle était féminine. Elle était coquette. Je vais vous dire, il y a des gens, ils ont des faiblesses. Ils ont des failles. Et il ferait bien de les connaître. Parce qu'ils doivent faire attention. Parce qu'après, c'est leur vie qui est volée. Elle s'appelait Delila. Elle était coquette. Elle semblait prendre soin de lui. On avait l'impression qu'elle était là pour l'entourer, l'envelopper, prendre soin de lui. La réalité, c'est que les Philistins lui avaient dit « flatte-le ». Et elle était payée pour ça. C'est triste. Un homme de Dieu, intègre, enfin, qui aurait dû être plus intègre, en tout cas puissant, et ouin. Là, aux prises avec cette femme, et au fond de son cœur, lui, il pense que c'est de l'amour. Mais la seule chose qu'elle cherche à faire, c'est le manipuler, le détourner, le tromper, le séduire, et finalement lui prendre ce qui est en lui. Et pour ça, elle utilise des armes. Vous savez, lorsque l'ennemi vous envoie une personne, comme je l'ai dit ce matin, cette personne n'aura pas des cornes, elle sera jolie. Belle ou beau, ok? Et elle n'aura pas non plus une grande queue. Et elle ne sera pas habillée dans un manteau rouge. Ce sera une personne séduisante, charmante. Maintenant, toutes les personnes charmantes ne sont pas des mauvaises personnes. Delila, elle a utilisé ses armes. Vous savez ce que c'était, ses armes? Elle ne s'est jamais disputée avec Samson. Elle ne lui a jamais fait la guerre. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle a joué de ses charmes. Elle a joué de sa séduction. Elle a aussi joué l'apitoiement. Elle a pleuré. Beaucoup de larmes sont de la manipulation. Ne croyez pas toutes les larmes. Beaucoup de larmes sont des larmes de crocodile. Ah ouais, le crocodile pleure, mais aussi il croque. Il va te croquer, ouais. Est-ce que vous comprenez ça? Delila, elle savait s'apitoyer. Et on le voit. Tournez avec moi dans Juge. Regardez rapidement. Dans Juge 16. Vous êtes avec moi? Juge 16, verset 4. Après cela, il aima une femme de la vallée de Sorek. Elle se nommait Delila. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent « Flatte-le, 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 pour savoir d'où lui vient sa grande force. Et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui? Nous le lirons pour le dompter et nous le donnerons, pardon, et nous te donnerons chacun 1000 cycles d'argent. 1100 cycles d'argent. » Au verset, et voilà, on voit que, voilà, elle va lui demander quel est le secret de ta force. Et puis Samson lui raconte des histoires. Il ne veut pas lui dire quel est le secret de sa force. Il ne veut pas lui dire que sa force est dans ses cheveux. Il a fait un vœu, c'est le vœu de Naziria. Il n'a pas le droit de couper ses cheveux. Et donc, il lui raconte des histoires et lui dit, oh, si tu me mets des cordes fraîches, si tu me mets des cordes mouillées, si tu me mets des cordes neuves, et il va lui dire toute espèce d'histoire. Et à chaque fois, les Philistins tombent sur lui. Il se délivre de ses cordes. Jamais il voit qu'elle le lit. Jamais il considère qu'elle le lit. Elle le lit de cordes. Comment il était aveuglé et séduit. Comment il était manipulé. Et après cela, elle lui dit, regardez au verset 10. Delila dit à Samson, voici, tu t'es joué de moi. Attendez, qui se joue de qui ici là? Tu m'as dit des mensonges. Qui dit des mensonges? Maintenant, je te prie, indique-moi avec quoi il faut te lier. Oh my God. Et voici que l'histoire continue. Et au verset 13, il se délivre encore de ses liens. Et Delila dit à Samson, jusqu'à présent, tu t'es joué de moi. Je vous dis, toutes les larmes ne sont pas des larmes qui sont véritables. Hein. Beaucoup de larmes et beaucoup d'apitoiement. De toute façon, tout apitoiement est de la manipulation. Ne vous y trompez pas. Jusqu'à présent, tu t'es joué de moi. Tu m'as dit des mensonges. Déclare-moi avec quoi il faut te lier. Et l'histoire continue. Et au verset 15, elle lui dit, mais comment tu peux me dire je t'aime? Vous savez sur quelle corde elle joue? Vous savez sur quelle corde elle joue? Les liens de l'âme. Il y a des gens qui sont plus fragiles que d'autres. Il y a des gens qui sont manipulables. Et il y a des gens qui sont assez intelligents pour se jouer d'eux et les manipuler et leur prendre ce qu'ils ont. Hein? Ça, c'était Delila. Delila s'est jamais fâchée avec Samson. Elle l'a jamais provoqué, elle l'a jamais pris de face, elle l'a manipulé avec beaucoup d'amour, beaucoup de cadeaux, beaucoup de soins. Comme ça, elle était bien aveugle. Alors elle lui dit, comment tu peux dire je t'aime puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi. Elle est la manipulation. Et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Comme elle était chaque jour à le tourmenter. Répétez le mot tourmenter. Faites attention aux gens qui vous tourmentent. Vous savez, des gens qui insistent, qui négocient, qui plaident, qui demandent, qui supplient. Oh my God. Hey, fuyez, prenez la tangente. Hein. Parce que si vous n'avez pas dans votre cœur, fuyez, hein. Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme, il était faible. Il y avait des domaines dans lesquels il était faible. Il avait joué avec la désobéissance. Il y avait des domaines dans lesquels il était faible. Son âme s'impatienta à la mort et il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu. dès le ventre de ma mère. Et si j'étais rasée, ma force m'abandonnerait et je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Oh my God! Delila, voyant qui lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur dit, montez cette fois car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle, etc. Elle l'endormit, verset 19, elle l'endormit sur ses genoux. C'est le comble même de la traîtrise et de la manipulation. Ça, ce sont les liens de l'âme. C'est dangereux. C'est dangereux. Vous pouvez perdre votre vie, vous pouvez perdre votre appel, vous pouvez perdre des années de votre vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle l'a endormi sur ses genoux. Qu'est-ce qu'un homme de Dieu faisait endormi sur les genoux d'une femme qui n'avait aucune crainte de l'Éternel, qui était une païenne? Qu'est-ce qu'un homme de Dieu? Et je vous parle à vous, hommes et femmes du Seigneur, enfants du Dieu vivant, serviteurs et servantes de l'Éternel. N'allez pas vous appuyer sur n'importe quel genou. N'allez pas trouver abri sous n'importe quelle personne. Plutôt réprimander les gens. Est-ce que vous m'entendez ce soir? Endormi sur ses genoux. Évidemment, il s'est réveillé comme les autres fois. Sauf qu'il était comme un simple homme. On lui a crevé les yeux. Il a perdu toute sa force, sa puissance et son onction. Il est devenu comme tout un chacun. Et il a tourné la meule pour les Philistins. Quelle tragédie! Quelle tragédie! Cela nous parle des liens de l'âme. Nous devons veiller à nos associations et aussi aux liens de l'âme dans notre vie. Est-ce que je peux avoir un amen pour cela? Alléluia! Je me souviens, j'ai une personne dans ma famille, un de mes oncles. Il est passé par un moment difficile dans sa vie. Et il a rencontré une femme. Qu'est-ce qu'elle était belle. J'ai rarement vu une femme aussi belle. Elle était magnifique. Brune, avec des yeux bleus, juste magnifique. Des yeux bleu-vert, une très belle femme. Oh mon Dieu, il était en feu, en flamme. Il était... Waouh! Mais Dieu lui a parlé. Je suis en train de chercher dans les proverbes. Je cherche. Excusez-moi, je n'ai pas eu le temps de trouver le verset. Il est où ce proverbe? Où il est dit: méfie-toi de la femme. Nanana, et ne prête pas attention à ses paupières. Il est où celui-là? C'est le 5, le 6 ou le 7. Mon fils, mon fils. On est en train de lire les proverbes. Vous devriez être capable de me le retrouver comme ça. 6. 6, 25, c'est ça? Ah, c'est celui-là, exactement. Je vois qu'il y a des gens qui lisent leur Bible dans l'église. Amen, 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 amen. Il est écrit, ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté. Et ne te laisse pas séduire par ses paupières. Voilà le verset, la parole que Dieu lui avait dit. Oh, cette parole, c'était juste un verset. Il l'avait mis de côté. Ouf, juste un verset. Sauf que parfois, Dieu ne répète pas deux fois. Quand Dieu vous dit quelque chose, il ne vous le redit pas dans toutes les langues et dans tous les dialectes. Il vous le dit, il vous le dit. Vous en faites ce que vous voulez. Vous le mettez dans votre poche, vous le mettez sur l'étagère, vous le jetez par-dessus l'épaule. Faites ce que vous voulez. Mais le Saint-Esprit, il est fidèle. Il nous dit toujours. Eh, mon Dieu, il a épousé cette femme. Oh, au départ, elle était chrétienne. Parce qu'évidemment, en étant rapprochée de notre famille, elle est devenue chrétienne. Puis après, elle n'était plus chrétienne. Après, c'était la catastrophe. Et il a galéré. Il a vraiment souffert pendant des années de sa vie. Des années, des années, des années. On ne peut pas raconter tous les détails. Mais je peux vous assurer que les belles paupières, vous les oubliez vite quand les problèmes viennent. Maintenant, il n'y a pas que des mauvais liens. Il y a des bons liens de l'âme. Dieu merci pour ça. Alléluia. Il y a des gens, vous êtes liés à des bonnes personnes. Vous avancez. Pensez à Ruth. Ruth, c'était une Moabite. Elle n'était pas héritière de la bénédiction de Dieu. Et mon Dieu, elles avaient tout perdu. Marie, plus d'avenir. Or, pas embrasser sa belle-mère, elle est repartie dans son pays. Mais Ruth, la Bible dit, elle s'est attachée. Elle s'est attachée à sa belle-mère. Et elle lui a dit, ne me presse pas de te quitter. Car là où tu iras, j'irai. Là où tu vivras, je vivrai. Là où tu mourras, je mourrai. Mon Dieu sera ton Dieu. Ton peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Oh, j'ai mis tout à l'envers. Ton peuple sera mon peuple. Elle a fait cette grande déclaration, Ruth. Elle s'est attachée à la bonne personne. Elle s'est attachée à Naomi. Quand bien même elles sont rentrées en Israël, elles avaient les poches vides, elles n'avaient plus rien. Naomi a dit, appelez-moi Mara, mère, j'ai tout perdu. Elle était quand même attachée à la bonne personne. Et quand bien même il n'y avait plus rien, il y avait encore. Vous savez pourquoi? Parce que Naomi était attachée à la bonne personne. Naomi était fille d'Israël. Elle était fille du Dieu vivant. Peut-être elle n'avait plus rien. Elle avait fait cette erreur terrible de partir à Moab pour chercher du blé, du pain. Tout perdu à Moab. Quand vous allez à Moab, vous perdez tout. Elle est revenue. Elle s'appelait Mara. Mais c'était une fille d'Israël. Alléluia. Et la Moabite, elle s'est attachée à la fille d'Israël. Elle s'est attachée à cette Naomi. Et là, Dieu l'a bénie. Dieu a rendu tout dans sa vie. Naomi lui a dit, retourne dans ton pays, est-ce que j'ai encore des fils dans mon sein à te donner pour que tu épouses? Ta vie est terminée, reste, rentre là dans ton pays. Elle a dit, ah non, je resterai attachée à toi. Et Dieu a amené une provision. Vous savez, Dieu est toujours capable de faire un chemin là où il n'y a pas de chemin. Il n'y a pas de chemin, ce n'est pas possible dans le naturel. Dieu fait un chemin. Quand c'est son plan, sa volonté, il met sa grâce et sa faveur. Et Ruth a épousé Boaz. Elle a épousé l'homme. Juste l'homme qu'il fallait épouser. Oh my. Et vous devez épouser Boaz. Et les femmes, c'est Boaz que vous devez épouser. Personne d'autre. Et vous les hommes, c'est Ruth que vous devez épouser. Alléluia. Et ils ont eu un magnifique mariage. Ils ont eu un magnifique enfant. Et comment leurs vies ont été restaurées et bénies. Amen. Il y a des bons liens. Paul, la Bible dit, s'est attaché à Barnabas. Paul s'est attaché à Barnabas. Il s'est attaché à la bonne personne pour sa vie. Il s'est accroché à Barnabas. Barnabas est celui qui l'a fait vraiment entraîner dans le ministère. Il l'a présenté aux 12. Les 12 ne voulaient pas de ce Paul, ne voulaient même pas en entendre parler. Mais Barnabas, c'était une bonne personne. Comment il a béni Paul, il l'a permis d'avancer dans le ministère, il lui a aidé à fortifier son témoignage, il l'a amené dans le premier voyage missionnaire. Le premier voyage missionnaire, ce n'était pas Paul et Barnabas, c'était Barnabas et Paul. Parce que c'est Barnabas qui prenait Paul avec lui dans le ministère. Et Paul, en étant accroché à la bonne personne, dans les bonnes associations, les bons liens de l'âme, n'est-ce pas, il est devenu ce grand Paul, alléluia, qui nous a tant bénis et qui nous bénit encore. Que je peux avoir un amen pour ça? Élisée s'est attachée à Élie. Il s'est attaché à Élie. Il s'est attaché à la bonne personne. Je vais vous dire une chose, attachez-vous à la bonne personne. Alléluia. Et la première bonne personne, c'est Dieu. Que personne ne détruise votre relation avec Dieu. Que personne ne s'interpose avec votre relation avec Dieu. Dieu est votre première personne à qui vous devez être attaché. La deuxième personne à qui vous devez être attaché, c'est votre pasteur. Amen. Quand vous avez la chance d'avoir un bon pasteur qui vous aime, qui veut le meilleur de Dieu pour vous. Vous savez, il y a des pasteurs qui sont... Il y a des pasteurs, et je ne veux dire aucun mal sur quelques pasteurs que ce soit ou quelques églises, donc je fais juste une toute petite parenthèse. Mais il y a des pasteurs qui sont durs. Il y a des pasteurs qui, parfois, je connais... Bon, je n'ai pas envie de parler de choses. Donc voilà, on referme la parenthèse. Dieu bénisse les pasteurs. C'est sûrement pas facile d'être pasteur. Je peux vous dire, les pasteurs qui sont durs avec les gens, et pas toujours vraiment par amour, qui ne veulent pas toujours le meilleur de Dieu pour leurs brebis. Hein. Mais ce n'est pas le cas ici. Hein. Alléluia. Et où que ce soit, que les gens soient attachés à leur pasteur, que personne ne vienne vous séparer de votre église et de votre pasteur. Soyez attachés aux bonnes personnes pour votre vie. Amen. Comprenez quelle est la source des bénédictions. Comprenez où est la source des bénédictions. Élisée s'est attachée à Élie. Élie lui a dit, reste là, laisse-moi aller, je dois aller tout seul. Il a dit, oh, mon âme est vivante et ton âme est vivante. Dieu m'est témoin, je ne te quitterai pas. Et partout dans toutes les villes où ils ont traversé, Élie n'a cessé de dire à Élisée, reste là où tu es, reste là où tu es. Non, laisse-moi tout seul, oh, je ne te quitterai pas. Je vais vous dire, il ne l'a pas quitté, il avait raison de ne pas le quitter. Dieu le testait et il ne l'a pas quitté. Mais au bout du compte, il a reçu la double onction. Il a reçu la double portion. Il a pris le manteau de son père. C'était un vrai fils. Et il a reçu une bénédiction de fils. Alléluia. Et il a pris le manteau, il avait la double onction sur lui. Et Dieu lui a donné un grand ministère de puissance. Amen. Mes amis, c'est important. Et je termine maintenant. Est-ce que vous avez compris ce grand message? Depuis ce matin jusqu'à cet après-midi. Dieu vous parle ce soir. Faites attention à vos associations. Faites attention aussi aux liens de l'homme. Alléluia. Soyez attachés aux bonnes personnes dans votre vie. Que personne ne vienne vous voler votre couronne. Ni même vous voler votre course. Vous avez une course à courir. Amen. Alléluia. Fermons nos yeux et prions.